Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour, interview numéro 2. Je vous engage fortement à écouter la première. Bonjour François.
Bonjour Myriam.
Je reçois François Bourvic. J'ai dit MMA, franchement, c'est n'importe quoi.
Oui, mais tu l'as dit en chantonnant, ce qui était pas mal.
Directeur général Marnaud-Bois. On va pas reprendre la conversation depuis le début à présenter Marnaud-Bois, une jolie petite SPL, mais qui en fait beaucoup. On parlait de la défense et justement de cette difficulté à la défense de pouvoir réhabiliter les bureaux, ce qui est effectivement une problématique urbaine très très différente de ce que vous allez faire à Val-de-Fontenay. Qu'est-ce qui fait qu'il est important que la défense vive pour que Val-de-Fontenay vive ? La corrélation entre les deux ?
La corrélation entre les deux, elle est à deux niveaux, au moins à deux niveaux. Le premier niveau, c'est tout simplement les acteurs, les utilisateurs, voire même les investisseurs de Val-de-Fontenay du point de vue du bureau. Et on a un enjeu sur l'avenir du bureau et des emplois qui sont dans le tertiaire aujourd'hui. Et peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure.
Justement, on va en parler. Ouais.
Aujourd'hui, Val-de-Fontenay a été fondé dans les années 80, notamment, du point de vue du bureau, par des utilisateurs qui étaient à l'ouest. Mmh, mmh. D'abord à la Défense, avec la Société Générale, on va les citer, parce que c'est notre premier employeur sur le quartier.
Premier employeur, ouais.
Et le deuxième employeur, c'est la RATP qui est à Gare de Lyon. Donc, c'est des gens qui sont à l'ouest sur le RER A qui viennent trouver ce qu'on appelait le back-office, mais c'est-à-dire, en fait, beaucoup d'emplois absolument nécessaires, indispensables au fonctionnement de l'entreprise, qui trouvaient des locaux un peu moins chers, mais de qualité, parce que c'était quand même des bureaux, pour certains, dessinés par Oscar Niemeyer, d'autres par Lasco. Donc,
Ce n'est pas des architectes de moindre...
Donc quand on dit back-office, on a le sentiment que c'est un peu relégué. Le Val-de-Fontenay, il y a mille choses
à
transformer.
À l'époque, le back-office, c'était quelque chose d'essentiel, le cerveau, quelque part.
Les mains qui faisaient fonctionner la boutique.
Bien sûr.
Donc on a aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai besoin que la Défense aille bien, ou la Gare de Lyon, parce que c'est des entreprises, si elles vont bien, on aura des emplois à Val-de-Fontenay. Le deuxième aspect qui est important pour nous, c'est que les recherches aujourd'hui, notamment, je parle des aménageurs, je parlais de mes collègues de Paris La Défense, je fais un peu de pub pour les copains, ils sont face à des enjeux qui nous concernent aussi. Comment renaturer une dalle? C'est pas facile. Alors nous, on renature du vrai sol. C'est déjà bien compliqué. Retirer du bitume, planter, etc. Il y a des endroits où on a deux ou trois couches de parking. Pas facile de retrouver le vrai sol. Comment on fait quand on a une dalle qui est à 30 mètres de haut? Qu'est-ce qu'on fait d'un bâtiment de bureau qui a fini sa vie de bureau, au moins pour les 15 prochaines années? Comment on le rend moins énergivore? Comment on le rend attractif? Comment on donne envie à des gens d'y travailler, d'y habiter, temporairement ou de façon plus pérenne? Enfin, c'est des enjeux qui sont majeurs pour la Défense, qui sont tout aussi majeurs pour nous, de regarder et d'échanger avec ce que font les équipes de Paris Défense. Pour nous, c'est extrêmement important, c'est vertueux.
Alors, on va pas faire toute la deuxième interview sur Paris La Défense, parce que j'ai commencé à croire que tu es nostalgique.
Par contre, ça te donnera l'occasion d'inviter nos collègues de la Défense.
J'ai essayé, mais je sais pas pourquoi. Mais tu pourras m'aider parce que j'ai essayé, mais je sais pas.
Sur les ondes.
Je pense qu'on va faire un appel. Aujourd'hui, on est dans une situation où on envisage, donc dans 10-15 ans, une personne sur trois travaillant en Val-de-Fontenay, les deux autres vivant à Val-de-Fontenay. On parlait de back-office. Le back-office demain, c'est l'IA, c'est la machine. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on trouve des emplois sur Val-de-Fontenay qui seront valorisés, ou effectivement on sera dans la ville du quart d'heure, ou quelque part on habitera à Val-de-Fontenay et pourquoi pas évidemment travailler à Val-de-Fontenay, et on sera dans une vraie ville où on arrive d'une manière assez simple. Évidemment, on peut prendre le RER pour traverser Paris, mais on arrive d'une manière assez simple à vivre et à travailler au même endroit.
Là, on touche un sujet qui est extrêmement compliqué pour nous. On n'a pas encore trouvé la solution, donc je vais être modeste sur ma réponse, mais Autant aujourd'hui, on travaille beaucoup sur, par exemple, la transformation des bureaux à logement, qui est un défi majeur
énorme
pour l'Île-de-France,
ouais,
mais qu'on arrive nous à adresser pour des raisons que j'avais évoquées la semaine dernière, et qui font que aujourd'hui, on a 40 000 m² qui sont déjà en cours de transformation de bureaux à logement, et on a encore 40 000 m² derrière qui arrivent, qu'on saura transformer. Donc on est sur déjà de la grosse échelle.
Et même de mieux en mieux, puisqu'on apprend.
Et de mieux en mieux, puisqu'on apprend effectivement des premières difficultés. Et on a des partenaires aujourd'hui, bailleurs, et puis des promoteurs, et puis des archis, etc., qui jouent le jeu et qui prennent ce risque. Et je les en remercie, parce que ce serait difficile sinon. En revanche, la question de la ville productive, on ne sait pas encore comment l'adresser dans nos territoires, alors que c'est des territoires où il y avait énormément d'emplois, tertiaires certes, mais aussi de PMI, PME, d'entreprises, de petites transformations, etc. J'ai pas un territoire de grosse industrie, il n'y avait pas de métallurgie, il n'y avait pas de à Val-de-Fontenay. Par contre, il y a un tissu de PMI, PME qui produit au moins autant d'emplois que le tertiaire, c'est-à-dire
Faut
environ
toujours aider les PMI, PME, si je puis me permettre.
J'en suis une, donc c'est clair. mais... Aujourd'hui, on a un coût du foncier, par exemple, qui ne permet pas de maintenir, et on a un phénomène spéculatif, notamment pour produire du résidentiel pas forcément de très bonne qualité, qui ne permet pas de maintenir le tissu PMI-PME. Mmh. Donc lui, il est en train de tranquillement s'en aller de nos territoires, mais comme partout autour de la 86 ou de la zone dense de l'agglomération. Ça, c'est le premier point.
C'est un vrai problème. Hein.
Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, on a besoin de recréer des emplois et des espaces de travail qui ne sont plus, et ben effectivement, ces armadas d'emplois du tertiaire qu'on appelait effectivement les back-office, qui employaient beaucoup, beaucoup de monde. Si l'IA le remplace, où vont travailler les gens? On parle beaucoup des 10 millions de mètres carrés vides, ou aujourd'hui 5-6, et on se dit que dans 5-6 ans, c'est 10 millions en Île-de-France. Bon, des mètres carrés vides, c'est un scandale, il faut loger les gens, mais ça veut dire aussi quels sont les emplois qui sont détruits à côté. Ces emplois-là, si on ne les reconstitue pas dans le tertiaire, il faut bien trouver, pour les 11 millions d'habitants d'Île-de-France, des emplois productifs, intéressants pour la société, avec une vraie valeur ajoutée, qui puisse remplacer cette destruction d'emplois qui est devant nous dans le tertiaire. La destruction d'emplois dans l'industrie, on a vu à quel point ça a été violent.
Bien sûr.
Dans les
business decisions. Entre les grèves
La misère et le malade qui s'ensuit. Si on a la même chose dans le tertiaire dans les 10 prochaines années, je peux imaginer tout de suite la violence pour l'Île-de-France.
On va rester optimiste parce que là, on est en train de s'enfoncer.
Non, parce qu'il faut qu'on produise, justement, aujourd'hui, la ville productive. On va parvenir sur de la grosse industrie, néanmoins. Alors, ça répond d'ailleurs à un sujet d'emploi. Ça répond à un sujet de résilience de nos territoires, de pouvoir remettre des emplois à l'Est, y compris de petites productions de PMI-PME. C'est pas facile à faire, il faut produire des locaux qui ne soient pas trop chers et trouver le moyen de réduire le prix du foncier, mais ça permet de redonner de l'emploi qui ne soit pas trop loin à 2 heures de transport. Et puis trois, c'est aussi un enjeu de souveraineté de nos pays, de l'Europe, de l'Île-de-France, que de pouvoir avoir de la production qui ne soit pas venu de l'autre bout du monde. Parce que si on ne fait qu'importer ce qu'on utilise, ça ne marche pas non plus.
Ça veut dire qu'on commence à initier quelques idées. Moi, j'en ai, toi, tu en as. On en parlera une autre fois. Je pense que c'est un peu prématuré. Mais je pense qu'il y a effectivement derrière un fil extrêmement important qui, en plus des PME, des PMI, des emplois au sens désincarné du terme, parle de la résilience des êtres humains, parle de la du bien-être des êtres humains, et derrière chaque emploi de back-office, il y a aujourd'hui encore, évidemment, des êtres humains qui, demain, peut-être dans 10 ans, ne sauront plus quoi faire. Hein. Donc, que faire, hein. Donc, effectivement, c'est un challenge formidable.
Alors, qui dépasse le ménageur, évidemment.
Bien sûr, évidemment.
On ne peut pas se dire qu'on n'est pas concerné.
Bien sûr. Alors, justement, ceux qui sont concernés, ce sont les élus. Et moi, je voudrais parler du maire de Fontenay-sous-Bois, et se dire qu'est-ce qu'on fait pour que un élu passe de, on va dire, d'une réflexion, d'un d'une envie d'attendre, je parle pas d'attentisme évidemment, d'une envie d'attendre au fait de se dire quelque part pendant 3 ans, 4 ans on a construit des choses et ça y est, on y va, on lance les choses malgré la conjoncture, on se met dans une situation d'être un maire bâtisseur, et c'est tellement rare que voilà, je voudrais ici rendre hommage aux élus bâtisseurs. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, ou c'est peut-être pas d'un seul coup d'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'un élu s'intéresse à la chose?
Alors je vais pas parler à sa place, il faudra que tu l'invites.
Mais t'inquiète pas, je vais pas me gêner. Pardon. Mais,
c'est un vrai.
Parce que c'est vrai qu'il y a peu d'élus qui parlent de.
C'est un enjeu.
De cet enjeu.
C'est un enjeu extrêmement important pour nous et on en réfléchit beaucoup. Nous, les aménageurs, on ne peut pas travailler si les élus n'ont pas envie de la ville, de la construction, des équipements, des routes, des squares, des parcs. Peu importe ce qu'on a à construire, il faut bien produire ou résoudre une partie des dysfonctionnements de la ville. On y réfléchit par exemple avec l'Université de la Ville de Demain, de l'Institut Palladio, on y réfléchit. Parce qu'on est tous en but à, aujourd'hui, une certaine désaffection des élus sur l'acte de construire. Alors, je vais pas parler à la place du maire de Fontenay-sous-Bois parce que c'est à lui de le faire. Néanmoins, il y a des choses qui pour nous sont importantes et je pense qu'il, aujourd'hui, lui, l'incarne à sa manière de bonne façon. Déjà, il y a le goût de voir des choses apparaître.
Ouais.
Que ce soit un bâtiment neuf qui sort de terre, on coupe le cordon, ou que ce soit un bâtiment qui se transforme, une nouvelle façade qui apparaît, un nouvel usage dedans, il faut avoir le goût de ça, et c'est un goût qu'en fait qu'on développe en avançant. Le deuxième point, c'est, je pense qu'il faut un certain courage, parce que en fait, on a beaucoup d'ennuis quand on travaille, quand
bien
on produit et quand on fait bouger, quand on propose des choses qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir, et donc on prend le risque d'être critiqué, de se prendre quelques coups au passage. Et donc il y a un courage là qui n'est pas négligé. Le troisième point qui pour nous est extrêmement important, il faut réussir à donner les outils aux élus pour les engager à faire. Et c'est là où il y a un rôle pour nous, les aménageurs.
L'aménageur, ouais.
Pour les autres institutions, pour la Banque des Territoires à côté de nous, pour les autres établissements publics fonciers, les bailleurs, la foncière de transformation immobilière, j'en oublie forcément, quand on commence à citer, on en oublie. Mais on a besoin que tous ces outils qui sont à disposition des territoires et donc des élus soient coordonnés, soient dans des partenariats pour qu'on puisse produire une ville qui soit la plus réussie possible et qui donne confiance et qui donne des vraies solutions à nos élus. S'ils sont seuls et sans outils ou sans solutions,
bien sûr,
ça ne peut pas fonctionner. Et là-dessus, on n'a pas à tirer, je suis l'aménageur, je tire la couverture à moi, contre le PF ou contre le promoteur ou contre le bailleur. Parce qu'à ce jeu-là, en fait, on perd tous. Donc on a besoin d'avoir encore plus de... Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas par moment des discussions compliquées ou des enjeux ou des intérêts économiques divergents, et dans ce cas-là, il faut qu'on les mette sur la table et qu'on en discute. Mais il faut qu'on apporte aux élus des outils, des réponses. Sinon, il y a aussi un enjeu démocratique derrière. Si les élus n'avancent pas,
il n'y a pas de réélection.
Ne font pas bouger leur territoire, n'apportent pas des nouvelles populations, n'apportent pas de nouveaux services, de nouveaux commerces, ça nuit aussi à leur légitimité démocratique.
Et donc, on est à 1 an des élections.
Tout à fait.
Et donc, monsieur le maire, là, va se représenter dans une ville, quelque part, dont il ne connaît pas les habitants de demain, puisque à la fin de ce prochain mandat, il y aura beaucoup plus d'habitants.
Alors,
c'est un enjeu intéressant.
Extrêmement important. Et c'est vrai que c'est pour la fabrication de la ville, pour les aménageurs, il y a toujours cet enjeu-là. Qui sont les habitants, et quelle que soit la ville où j'ai pu travailler, et puis ça parlera à beaucoup de monde. Il ne faut pas avoir peur de ça, parce que
c'est la vie.
C'est la vie, et puis on a tous déménagé dans nos vies, et on n'est pas tous restés toujours au même endroit. Accueillir des gens qui viennent d'autres horizons, c'est une richesse pour un territoire.
C'est indispensable,
c'est
nous
indispensable.
Le savons. Merci François.
De rien, à très bientôt.
Et à bientôt sur nos antennes.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.